Charles Dupont-White, Réflexion d'un optimiste, chapitre 13, résumé. Tout comme on ne peut pas espérer le renouvellement magique d'une société, de même on ne doit pas en craindre le bouleversement satanique. Naturelles ou politiques, bonnes ou mauvaises, les choses ont une certaine stabilité qui ne se prête pas au cataclysme. En France particulièrement, quelle que soit une situation politique, jamais elle ne pose à ce pays la question d'être ou de ne pas être. Il n'y a de péril en ce pays que pour la liberté, jamais pour la vie. Cela tient à ce que la France a pour besoin essentiel et fondamental le besoin d'être gouverné. Un gallicisme s'il en fut, qu'il ne faut pas confondre, s'il vous plaît, avec le besoin d'obéir, avec les servilités de l'Orient et de la théocratie. Le besoin français d'être gouverné est un hommage rendu à deux forces légitimes, à deux autorités, pas moins que la conscience et l'intelligence. C'est un aveu de la loi morale comme souveraine, de l'esprit comme supérieur. Ajouter au gouvernement certaines qualités comme la distance, l'éloignement, la centralisation enfin, et vous avez le secret de cette inclination de la race vers le gouvernement. Chose bizarre, la race serait individualiste si son idéal était celui de la force. Mais elle est centraliste parce que son idéal est celui du droit, dont le gouvernement est l'organe, d'autant meilleur qu'il applique le droit de plus loin aux personnes et aux choses. Ce besoin fortement ressenti par une société y représente l'instinct vital, aussi bien que l'instinct moral. Car ce qui fait la vie d'une société, c'est l'ordre, et ce qui fait l'ordre, c'est le gouvernement. Si l'homme est un animal sociable, ainsi que l'a dit Aristote, il faut croire que le français est un animal gouvernable. Avec cet effet que plus en France on détruit l'organe du gouvernement, plus cet organe y pousse de nouveau et fonctionne avec vigueur. Un rien suffit pour le faire reparaître ou pour en tenir lieu et en remplir l'office qui est quelquefois le salut public. La Convention n'avait pas plus de 15 départements sous son drapeau à certains moments de 1793, où elle reprit la France sur les rebelles et sur l'étranger. Il faut voir comme la chose est comptée par M. Thiers et jugée par le feu duc de Broglie dans ses vues sur le gouvernement de la France. Ainsi, le tempérament français comporte une restauration toujours imminente, toujours prête, de la vie sociale et de l'ordre public, avec un mauvais côté par exemple, qui est l'ajournement facile de la liberté. Mauvais, en effet, et même détestable, car la liberté est un intérêt éminent de toute société moderne et occidentale. Elle est une manière de vivre qui importe à la fructification morale d'un pays, surtout de la France. Quand un pays n'est pas libre, après l'avoir été et se croyant capable de l'être, ce pays dégradé à ses propres yeux devient stérile. Il ne porte plus de grands hommes, ce qui est le fait actuel de la France, fait imputable à l'Empire dans sa première manière, laquelle a duré 15 ans. Toujours est-il que la France n'est jamais en péril de mort et de dissolution. Elle fera ou laissera faire une dictature, ce qui est le plus haut point de gouvernement, plutôt que de se sentir désordonnée et disloquée, plutôt que de tomber en morceaux et de pratiquer une pure anarchie, une pure instabilité. La chose, c'est-à-dire la dictature, est regrettable sans doute. Mais tout vaut mieux que les violences d'une guerre civile, avec des fruits comme le démembrement et le fédéralisme, ou que la domination d'un parti, infiniment pire que celle d'un homme. Après tout, la France, il y a 70 ans sous le Consulat, a su devenir une société paisible et respirable, avec des matériaux d'une incohérence, d'une hostilité encore plus violente que ceux d'aujourd'hui. On n'a pas assez remarqué, comme la société était difficile à refaire au commencement du siècle, parmi des castes qui venaient de se proscrire, de se confisquer, de se guillotiner, parmi des chaumières et des châteaux qui s'étaient successivement exploités et brûlés. Comment, toutefois, elle s'est refaite par la centralisation, et combien il eût été important aujourd'hui de ne pas toucher à cet instrument souverain de discipline et de cohésion. Vous me direz qu'il y eut un grand homme, le premier consul, pour opérer de la sorte, qu'il y eut en outre la victoire, cette facilité, cette bénédiction qui nous a quittés. Je conviens que jusqu'à présent, nous n'apercevons rien de pareil. Mais il n'est pas prouvé qu'un grand homme soit nécessaire aujourd'hui pour des difficultés infiniment moindres et dans une société qui a pris une certaine habitude, des ébranlements sans chute. Grandes, elles vous paraissent quand vous voyez d'une part les dissensions croissantes de la classe supérieure et d'autre part les prétentions croissantes de la classe inférieure. Cela signifie à première vue que les unes peuvent de moins en moins gouverner les autres, qui deviennent de plus en plus ingouvernables. Mais il est une manière de mettre d'accord les classes supérieures. C'est de ne pas relever le trône qu'elles se disputent et de leur laisser pour toute politique la défense de leurs biens et de leurs personnes contre le suffrage universel, politique, où elles doivent se fondre et se concentrer sous peine des conséquences les plus capitales. Quant aux classes inférieures, s'il était vrai de dire que leurs prétentions sont croissantes, que leur revendication est partout celle du pauvre contre le riche, et qu'elles ont les plus noirs projets contre le capital et la propriété foncière, il y aurait là assurément un état de choses fort alarmant. On ne saurait imaginer de plus grand péril pour une société que la colère du nombre, que la masse armée en guerre contre les puissances et les supériorités dont elle est exclue. Mais rien n'est plus faux que cet état d'esprit, que cette portée et cette universalité de rage prêtée aux classes inférieures. Vous allez voir en quelques distinctions ces apparences grossières se dissiper, ou du moins se réduire, se cantonner, se diplomatiser en quelque sorte. D'abord, il ne faut pas parler des classes inférieures en général, prises dans leur ensemble comme mécontentes et subversives. La classe rurale n'a pas, à beaucoup près, de tels sentiments, soit parce qu'elle est propriétaire, soit parce qu'elle est dispersée. Or, cette classe inoffensive représente les 3/5 de la population française, ce qui emporte, ce qui détruit la menace terrible, inhérente au nombre. Il faut parler seulement de la classe ouvrière. Or, cette classe, si vous comptez les ouvriers de la laine, de la soie, du coton et du fer, se compose uniquement de 3 millions d'hommes, une minorité comme vous voyez, une faible minorité dans l'ensemble de nos populations. Il me serait facile de montrer que là seulement, se débattent les questions irritantes, capiteuses, et que l'agglomération où vivent ces hommes est uniquement ce qui fait de leur clameur un trouble et une alarme. Dans les campagnes, je le répète, la question du salaire est nulle. Elle est résolue par la diffusion de la propriété, c'est-à-dire par le travail, par la vie en quelque sorte, que s'est assuré le paysan érigé en propriétaire. En tout cas, elle est émoussée et désarmée par la dissémination des propriétaires, de sorte qu'il s'agit seulement de satisfaire et de contenir les populations agglomérées, les seules où la condition des salaires est quelque chose de perturbateur. Affaire de l'armée et des chemins de fer. À l'agglomération prise en général, ajoutez deux autres circonstances dangereuses. Premièrement, Paris, principal théâtre de cette agglomération où le grief du travailleur fermente démesurément. Deuxièmement, l'abîme de misère où tombent certains ouvriers. Abîme où ils sont plus misérables que l'esclave antique puisqu'ils y trouvent la mort, ou du moins une abréviation de la vie qui équivaut au suicide. Le maître antique, si maître qu'il fût dans toute la dureté du terme, ne voulait pas la mort de l'esclave. Cela est évident. Mais des hommes livrés à eux-mêmes sont capables, çà et là, de se traiter eux-mêmes plus durement, plus mortellement, par l'abus de leur liberté, faute d'empire sur eux-mêmes que ne ferait le plus cruel des maîtres. Bref, nous avons, chez certains hommes, une aggravation de l'esclavage antique, et cela dans une société moderne, dont la civilisation est justement de restaurer et d'exalter l'homme pris en cette simple qualité. Quelle que soit dans cet état de choses la part qui revient à l'homme, à la Providence ou à la société, cet état constitue une anomalie frappante, mais qui ne peut être subversive, parce qu'il s'agit là d'un mal partiel, local, et pour ainsi dire, cantonné dans des régions, dans des proportions fort réduites. Je le répète, la question du salaire est tout ce qui constitue aujourd'hui le socialisme. Il ne s'agit plus des sectes, leurs beaux jours sont passés. Où est le temps que le saint-simonisme, le fouriérisme, l'owenisme faisaient rage, parlant à la société d'une nouvelle manière d'être et lui proposant une nouvelle base, une nouvelle échelle et surtout un échelonnement nouveau. Il me souvient d'un temps où propriétaires et capitalistes étaient arrivés à un certain doute sur leurs droits, et cela à l'aspect d'une révolution socialiste, d'une révolution contagieuse qui avait fait son tour d'Europe. Le temps, la réflexion et même l'essai ont emporté ces mièvreries. Reste aujourd'hui, pour tout socialisme, une seule question que voici. Le travailleur doit-il, pour toute récompense de son travail, ne pas mourir de faim? Quand il apporte à l'œuvre de la production un concours tout aussi nécessaire que celui du capitaliste, que celui du propriétaire, que celui du gérant, est-ce là tout le profit qu'il doit retirer de ce concours? Oui, assurément, disent les économistes, car le salaire est ce qu'il faut à l'ouvrier pour vivre et continuer sa race. Je sais bien que telle est la définition orthodoxe du salaire. Mais quand les économistes poussent leurs principes à ce point, ils se font secte, et l'on ne voit pas ce qu'ils ont de supérieur aux phalanstériens. Il est vrai que ceux-ci veulent bâtir des phalanstères, mais le bon plaisir des économistes serait qu'il n'y eût ni hôpitaux ni hospices, et que l'homme, absolument livré à lui-même et à ses œuvres, se fît une destinée selon ses mérites. À les entendre, la vieillesse et la maladie n'ont aucun droit sur la société, sur la fortune publique. Pourquoi la jeunesse et la santé ont-elles manqué de prévoyance? Si vous êtes sans ressources dans la souffrance et dans le grand âge, c'est faute d'avoir préparé des ressources, et cette faute vous est imputable. Mais laissons là les sectes qui ne savent rien, c'est-à-dire qui ne savent qu'une chose, qu'un principe pour traiter les sociétés humaines, où apparaissent l'être et la vie, arrivés à leur plus haut point de complication, soumis à des lois naturelles, avec cela mêlés d'âme et de libre arbitre, le règne humain, enfin. Je m'adresse aux travailleurs. Vous convenez, leur dirai-je, que la société vous empêche de mourir de faim. Mais en vérité, ce service n'est pas mince, et la société fait ainsi pour vous plus que n'a fait la Providence, plus que ne fait la famille, plus que ne savait faire le passé. Elle fait ce qu'elle est seule capable de faire. La Providence vous ayant jeté nu sur la terre nue, et la famille sous forme de parents vous quittant, vous lâchant presque toujours au milieu de votre carrière. Quant au passé, savez-vous ce qu'étaient les premiers hommes? Des cannibales. Ils se mangeaient les uns les autres. Tout porte à croire que telle fut la première forme de l'inégalité des conditions, en attendant l'heure plus clémente où il leur serait permis d'épargner les faibles et de les asservir. L'esclavage en son temps fut un progrès, quand l'homme, au lieu d'être un repas, fut une chose, un instrument. Vous entendez d'ici la réponse du travailleur. Il en appelle à la raison, qui est l'attribut humain, qui est la force répandue parmi les hommes, pour être supérieur en bien-être et en dignité à tous les animaux créés. C'est en vain, dit-il, que la Providence nous aurait donné la raison, si la raison ne devait pas rendre d'autres services au travailleur qui est un homme que de vivre comme un simple animal. Faisant cette humilité de condition à la masse des hommes, la Providence aurait traité l'homme moins bien que la dernière des brutes, laquelle est mise au monde avec son vêtement et au milieu de sa pâture. Ce que la Providence n'a pas fait directement pour l'homme, la raison individuelle et sociale qu'elle a mise en nous doit le suppléer et l'achever. Telle est la prétention élémentaire du socialisme dont le propre et d'impliquer un appel à l'État. Cette prétention est légitime, sauf à en reconnaître les termes et les limites. Elle est légitime dans des termes qui consistent à revendiquer une application spéciale et directe du gouvernement au bien populaire. En droit, ce socialisme, c'est la morale introduite dans les lois et dans le gouvernement, la morale laquelle n'est pas seulement d'empêcher le mal, mais de faire le bien. Pourquoi la charité ne serait-elle pas une vertu et un devoir de gouvernement, aussi bien qu'un précepte privé? En fait, le socialisme est une pratique de la Grande-Bretagne sous des formes diverses, mais notamment sous cette forme dispendieuse qui s'appelle la loi des pauvres. Un principe qui coûte 200 millions à l'Angleterre, au plus pratique et au plus positif de tous les peuples, au moins fantasque et au moins prodigue, est un principe qui ne peut être parmi nous un inconnu et un suspect dans ce mélange, dans ce niveau de civilisation qui rapproche les deux peuples. Notre socialisme sera-t-il celui de l'Angleterre? Cela n'est pas nécessaire. On peut se demander si la réduction des heures de travail, si les assurances de la vie entre les mains de l'État, si les bureaux de poste changés en caisses d'épargne peuvent devenir autant d'institutions françaises. Cela est à examiner de fort près. Mais à coup sûr, la grande application du socialisme en France, c'est l'enseignement primaire. Ce peuple excelle à l'épargne, de quoi les marques sont nombreuses, soit dans le contenu des caisses d'épargne, soit dans l'affluence des petits prêteurs aux emprunts ouverts par l'État, soit dans la petite propriété, dans la propriété diffuse, comme elle est par l'ardeur du paysan à se rendre acquéreur de la terre. À ce don de l'épargne, ajoutez la culture d'esprit et il n'excellera pas moins à l'emploi de son épargne. La société française, par les soins tout particuliers donnés à l'intérêt populaire, par le discernement et le traitement spécial du bien populaire comme élément du bien public, ferait beaucoup pour se fortifier et se sanctifier. Au surplus, elle aurait bien tort de se prendre au tragique et de se tenir pour maléficiée, pour maudite. On ne sait pas ce que le monde peut supporter de désastre et d'angoisse. La France, surtout avec sa légèreté fameuse, qui est le masque des forts, qui tient un peuple ou un homme debout, et avec la plus fière mine quand il a le cœur brisé quelquefois. Vous trouvez peut-être qu'aujourd'hui, nous avons tout lieu de geindre, de palpiter, de trembler jusqu'à la moelle des os. Mais ce pays a passé plus d'une fois par des angoisses toutes pareilles, qui l'ont trouvé invulnérable, qui l'ont laissé intact et même refait pour des destinées meilleures. Le monde a toujours été un Jérémie pour les lamentations, parlant de sa fin prochaine, se croyant à sa dernière heure. Mais il ne dépend pas de lui de vivre ou de mourir, et son désespoir ne pèse pas un fétu dans les gracieux conseils qui le gouvernent. Au fond, il ne désespère pas. Il parle, crie et râle, comme s'il allait passer. Mais il n'en meurt pas plus, et n'en vaut pas mieux. Il ne laisse pas que de vivre et de courir au divertissement, un mot de Pascal, comme s'il n'avait pas la moindre atteinte au cœur, le moindre doute sur son avenir éternel, ou même terrestre. Vers l'an 1000, où le monde croyait à sa fin, il pêchait aussi délibérément que jamais. Ces pêcheurs n'avaient imaginé qu'un sacrifice, qu'une expiation qui était de frauder leur héritier en léguant leurs biens aux moines. Telle est la profondeur des sentiments humains. À vrai dire, il n'est pas une époque qui ne se soit regardée comme grande et affligée entre toutes, comme frappé d'un mal secret et puissant, comme marqué d'un sceau fatal, pour être quelque chose de terrible en fait d'exemple. Infatuation que tout cela. Il ne faut prendre au sérieux ni Job, ni René, ni Lara, ni les sociétés les plus éperdues. Écoutez donc Tertullien. Il vous montre la puissance romaine, couvrant le monde de ses monuments, de ses inventions, de ses entreprises. Avec cela, entendant les pas des barbares dans les steppes de l'Asie, « Onerusi sumus mundo », ne dirait-on pas que le monde va crouler sous la splendeur et la défaillance de l'Empire d'Orient? Et Charlemagne, quelle ne fut pas sa tristesse à l'aspect des invasions normandes, croyant voir tomber ce qu'il croyait avoir fondé, illusion sur illusion. Quelquefois, c'est une caste qui prend ses périls pour une catastrophe universelle. Il y eut un temps où les communes, les simples communes, furent traitées de noms nouveaux et exécrables. Quelquefois, chez les races à grandeur matérielle, la banqueroute est un fantôme redouté, dont l'approche bouleverse toutes les imaginations. L'Angleterre a compté en quelques années 22 prophéties de banqueroute énumérées par Sir Henry Parwell. Mais revenons aux grandes choses. Il est très vrai de dire que le monde, que l'humanité a couru au véritable péril au XVIe siècle par le fait de la réforme, alors que l'unique autorité morale était la religion, et que l'Église était l'unique organe de cette autorité. Est-ce que toute chose n'allait pas tomber en dissolution avec le droit des individus consacrés en pareille matière? Tout survécut et s'améliora. En 89, reparurent toutes les terreurs d'un cataclysme, et vous estimez peut-être que la révolution n'est pas finie, que ses œuvres ne sont pas épuisées, que le suffrage universel vous réserve des surprises et des épreuves nouvelles. Mais le vraisemblable n'est pas toujours le vrai. Le vrai, c'est la vie qui est dans le monde pour y rester et pour s'y développer, dans ce pays surtout, élu jusqu'à ce jour pour les œuvres les plus vitales à travers les plus mortelles vicissitudes. Il ne faut donc pas s'arrêter et se morfondre devant certains aspects de notre situation actuelle et recommencer une littérature épuisée il y a 4000 ans, Super Flumina Babylonis, par des prophètes célèbres. Il faut voir les choses comme elles sont et les prendre pour ce qu'elles valent, pour ce qu'elles signifient, ni plus ni moins. À cette fin, la première précaution à prendre est de ne pas les considérer isolément, mais de les comparer soit à ce que nous avons vu d'analogue chez nous il y a 25 ans et qui a disparu, soit à ce qui apparaît d'analogue chez les autres, notamment chez ce grand peuple d'outre-Manche qui a tant de maladies en commun avec nous, quelques-unes plus criantes, mais aussi bien plus facilement, plus fortement traitables, dans ce pays où les classes supérieures sont unanimes en politique et maîtresses par là du gouvernement. Ceci, par parenthèse, vous pose une question et vous ouvre un horizon en passant. La question est l'horizon de la République, qui est le seul gouvernement où les grands de ce pays puissent devenir unanimes. Toute réflexion faite, nos masses populaires sont moins alarmantes que celles de la Grande-Bretagne, n'en ayant ni le nombre, ni l'excès de misère, ni l'audace, ni la discipline politique, ni les démagogues, ni l'aptitude aux grands mouvements d'opinion. Par exemple, elles ont la portée agressive qui réside dans un certain tour d'esprit français, théorique et logique à outrance, appuyé sur la Déclaration des droits de l'homme et sur une pratique révolutionnaire qui date de 1789. Mais tout cela, vu de près, ne change pas autrement notre avenir. D'abord, les révolutions ne sont parmi nous qu'un accident justifié en général par les torts officiels. En tout cas, prenez bien garde que les révolutions ne viennent pas du peuple seulement, mais du peuple conduit et discipliné par un notable appoint des classes élevées, par un état-major supérieur, que les émotions purement populaires, par exemple celles du 15 mai 1848 ou de Prairial en 4, n'ont pas su devenir des révolutions. Le peuple ne sait rien faire à lui tout seul, pas même les révolutions, rien qui dure, rien même qui détruise. Une machine aussi fortement liée, aussi bien construite qu'un gouvernement français, est la dernière qui puisse tomber devant le caprice de la rue. Je ne nie pas toutefois l'esprit révolutionnaire de la France, puisé à différentes sources historiques ou innées, encore moins le caractère perturbateur de l'agglomération parisienne, l'émeute toujours imminente de ce côté. À ceci, il n'est qu'un remède. Nous l'avons déjà reconnu, il y a 15 ans, à propos de centralisation. Ce remède, c'est une armée à Paris. Et encore faut-il que cette armée ait un nombre, une discipline, une manière de vivre, par où l'instrument répressif soit profondément distinct et isolé de la manière répressible. Réprimer ne suffit pas quand les soulèvements tiennent à un fond de misère quelquefois immérité. La misère est inévitable, comme le vice. Mais la loi et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de la réduire à cette source unique. Et encore, ils peuvent agir sur le vice par le façonnement de l'esprit populaire, par le nombre et l'accessibilité des écoles. Si nous supposons la sécurité publique, et entretient le travail. Si nous y ajoutons une bonne législation des écoles et de l'assistance publique, la classe des misérables peut être réduite dans une proportion croissante qui serait un triomphe, mais le seul où la meilleure société puisse prétendre. Je parle de ces misérables dont nous avons déjà touché un mot, qui nous représentent dans leur objection profonde quelque chose d'inférieur à l'esclave antique. Ce trait m'importune parce qu'il met en doute la réalité du progrès moderne. Mais ici, le nombre fait beaucoup à l'affaire. Car si la classe d'hommes dont on vient de parler n'était pas plus nombreuse que celle des malfaiteurs juridiquement classés, que ce qu'on appelle en style de police les classes dangereuses, ce serait partie gagnée. La société aurait fait ses preuves, aurait couvert sa responsabilité, ayant réduit le mal dans ses proportions où le mal cesserait de lui être imputable. Car enfin, s'il n'y avait pas plus de misérables que de repris de justice, qui oserait faire un crime à la société de cette misère persistante mais réduite? Dire à la société qu'elle fait ses misérables, ce serait lui dire qu'elle fait ses criminels, ses malfaiteurs, dont n'est pas exempte la cité la plus équitable et la plus vigilante. Cela revient à dire que la nature humaine est fragile et vicieuse, que la condition humaine est ingrate et difficile, que la meilleure société ne peut corriger ni l'une ni l'autre. Seulement, les vices de notre nature et de notre condition prennent un relief saisissant, horrible, quand ils paraissent, même à l'état d'exception, dans cet ensemble amélioré d'existence, de mœurs, de consciences publiques et officielles qui constituent une société moderne. Encore une fois, tout ceci est une question de chiffres et de proportions. Une société est sans reproche quand elle travaille et réussit à réduire la statistique des misérables, soit par mesure générale et réglementaire, soit par une charité plus abondante et mieux entendue. Cela fait, il ne lui reste plus, quand la misère éclate en soulèvement, qu'à faire son devoir envers tous, et ce devoir, c'est la répression des uns pour la protection des autres. Est-il possible qu'une nation comme la nôtre, d'un si long passé, d'une élaboration si lente et si forte, soit destinée à périr par un accident soudain ou par le paroxysme d'un mal ancien et national? Cela n'arrive à aucun animal que je sache et contredit toutes les lois de l'histoire naturelle et politique. Il y a sans doute dans notre société, depuis 1789, de nouvelles menaces, mais aussi bien il y a paru en même temps des forces nouvelles. J'appelle force cette diffusion croissante du sol français parmi les classes rurales, intéressées désormais à la sécurité, c'est-à-dire à la récolte et à la vente des produits fonciers. La Révolution a créé par là tout autant de puissance pour conserver que pour innover, tout autant d'intérêt acquis à la défense sociale que d'idées favorables au changement, à la subversion. Je constate en outre ceci, que la Révolution a mis au jour certaines idées, mais qu'en poursuivant sa marche, elle les a controversées, vérifiées et finalement répudiées. Ces idées ont succombé, incapables de résister à la controverse qui leur demandait des preuves, et même à leur triomphe qui leur demandait des œuvres. Il faut se rappeler que l'esprit français, en ses plus grandes audaces, a eu ses années de pleine expansion, et même de révolution triomphante, où il a pu tout dire et tout entreprendre, mais où il n'a su rien faire. On peut noter et préciser cette période qui tient entre 1822 environ, où le saint-simonisme est apparu, et la fin de l'Assemblée législative, où disparut, sous le coup d'État du 2 décembre, toute discussion libre. Pendant ces 30 années, le socialisme, la palingénésie, les sectes, la révolution enfin, ont pu tout dire et même tout essayer. On sait quel fut l'échec de ces nouveautés, un échec si complet qu'elles ont cessé d'être un objet de crainte ou de considération pour leurs adversaires, un objet de foi pour elles-mêmes. Cette foi les avait tellement quittées que la Commune de Paris, délibérant à l'Hôtel de Ville, n'a pas soufflé mot sur le socialisme, n'a pas dit le premier mot de ce qui se débattait au Luxembourg en 1848. Ainsi, la société française dans son état actuel a pour elle le droit et ce qui est plus encore, le sentiment de son droit. Outre le droit, elle a la force. Que voulez-vous de mieux? Une force aussi facile à reconnaître et à constater que celle du nombre, s'il vous plaît. Donc, le progrès n'est pas un vain mot, une fausse étiquette de nos jours. Le progrès consiste en ceci, que le nombre des misérables, dont la condition est inférieure à celle de l'esclave antique, dont la vie est précaire, est un très petit nombre et qui va toujours décroissant pour tomber, selon toute apparence, au même chiffre statistique que celui des classes dangereuses. Ainsi, ne me parlez pas de la masse des travailleurs, de la condition des salariés des classes pauvres, du peuple enfin, comme d'une perturbation et d'une subversion toujours prête au nom des idées nouvelles et d'une misère permanente. Ce mélodrame ne sera jamais joué. Les idées manquent, les idées ont péri. Quant à la misère, elle ne persiste que parmi un très petit nombre qui n'a pas plus la force que le droit de mettre à mal la société. Si vous voulez voir à quoi se réduisent les acteurs probables de cette scène, défalqués d'abord de cet ensemble groupé tout à l'heure sous le nom de peuple, comme un nuage plein de foudre, détachez-en, dis-je, premièrement, les paysans propriétaires, qui ne font pas grande figure sur l'échelle sociale, mais qui ne passeront jamais pour des ennemis de la société, qui sont des travailleurs, mais non des salariés. Deuxièmement, tant de salariés dont le salaire est stable, les domestiques depuis l'hôtel et le château jusqu'à la ferme. Troisièmement, les employés de boutique dont la condition est la même sous le rapport de la stabilité du salaire. Quatrièmement, parmi les salariés mêmes de l'industrie, distinguez soigneusement ceux de certaines industries, à l'ODEVE par exemple, où le salaire est régulier, où le chômage est inconnu, parce que ces industries sont alimentées par des commandes toujours identiques. Toutes ces éliminations faites, il reste encore bien des misérables dans certaines villes d'industrie. Il s'en rencontre beaucoup, à Paris principalement. Mais enfin, les ouvriers de la laine, du coton, de la soie et du fer ne sont pas plus de 3 millions en France. Est-il croyable qu'une société soit destructible par moins du dixième de sa population? J'ajoute que ce dixième ne se compose pas tout entier, à beaucoup près, de misérables, que beaucoup, parmi les ouvriers, s'accommodent de leur position et même la dépassent. J'emprunte aux enquêtes de la Chambre de commerce le fait que voici. On compte à Paris 31 000 fabricants qui emploient 2 à 10 ouvriers. 62 000 fabricants qui emploient un ouvrier ou qui travaillent seuls. Évidemment, ces petits fabricants sont des ouvriers qui ont eu la force d'acquérir un petit capital, la force de l'épargne, de la privation, de la vertu pour tout dire, et cela parmi toutes les tentations parisiennes. Allez-vous croire encore au danger implicite de cette partie de la population qui est le petit nombre, alors surtout qu'elle n'est pas dangereuse dans tous les éléments de ce petit nombre. Je conviens que l'ordre social, s'il est un peu menacé et mal attaqué parmi nous, est mal défendu par les classes supérieures. Mais notre position à cet égard vaut bien celle de la Grande-Bretagne, quoique les éléments de cette position ne soient pas les mêmes. Parmi les Anglais, c'est l'ouvrier qui est nombreux, c'est le paysan qui est rare. Ce qui leur fait de ce côté une position fâcheuse pour l'ordre public. Mais d'un autre côté, on voit en ce pays-là des classes supérieures qui sont cohérentes, unanimes, maîtresses par là du gouvernement et qui n'excellent pas moins aux concessions qu'aux répressions. À propos de concessions, ou plutôt de satisfaction populaire, c'est un point à ne pas perdre de vue parmi nous, même dans l'hypothèse prévue plus haut, où les misérables ne seraient-elles que par un effet de leur vice. Cette cause de la misère fût-elle unique et constatée, laisserait au gouvernement de grands soins. Comme une société progressive traite, avec des égards croissants, le prisonnier, le malfaiteur, le débiteur, la population de bagnes et de maisons centrales, qui ont le tort manifeste d'être vicieux, elle ne saurait en user moins humainement avec la population dégradée des derniers échelons, qui perche dans des bouges, qui abuse de l'alcool, qui vit dans la promiscuité, dans l'ivrognerie, dans toutes les ordures morales et physiques. Nous avons parlé de l'agglomération, circonstance qui seule donne un corps, une voix, à la classe peu nombreuse des salariés de l'industrie. Nous avons dit que cette classe montrait ça et là certains types de misère et de dégradation, inconnus à l'Antiquité, malgré ses esclaves, inconnus aux pays modernes qui n'ont pas encore la haute civilisation industrielle. Ce dernier point vaut la peine qu'on s'y arrête. D'abord, pour remarquer, ainsi qu'on vient de le faire, le devoir de correction, d'atténuation qu'ils imposent à l'État. Ensuite, pour expliquer comment ils se rencontrent dans une société progressive. Ils en sont l'effet comme l'ombre est un effet de la lumière. Dans une société où, en général, le travail est demandé, où, en général, l'instruction est accessible, qui offre même l'un et l'autre, les individus qui ne peuvent ou qui ne veulent s'instruire et travailler, soit par quelque vice d'intelligence ou de volonté, soit par quelque fatalité de circonstances adverses, ceux-là, dis-je, sont les derniers de la société, les derniers à une distance qui fait frémir, qui est un abîme, où ils sont la proie de toutes les brutalités, de tous les cynismes, de toutes les ordures qui peuvent se disputer un homme pour le défigurer et l'anéantir en quelque sorte. Dans une expédition toute récente à Java, les Hollandais entendent une horrible clameur, perçante, éperdue. Un convoi de blessés avait versé dans une fondrière et les crocodiles s'étaient abattus sur le convoi. Cela ne vous figure pas mal le rebut de la société civilisée, ses aventures mortelles, son agonie permanente. Livrer des hommes à eux-mêmes dans un milieu qui leur offre des ressources, mais qui leur impose quelques efforts, il arrivera que certains de ces hommes tomberont au niveau de la brute pour la brutalité, au-dessous de l'esclave antique pour l'avilissement. Tout comme les voleurs les plus adroits sont ceux d'une société où chacun peut gagner sa vie honnêtement, de même, les misérables de cette société seront les plus misérables de tous. Il y a en eux une vocation de déchéance et d'abaissement, comme chez les autres, la vocation du vol. Mais encore une fois, cette sinistre aventure est celle du petit nombre, du très petit nombre. Il y a là de quoi défigurer un état social, mais non de quoi le perdre. Si l'on veut du péril, il faut le chercher ailleurs. Il faut considérer Paris tel qu'il est devenu depuis 1789 et surtout depuis 1850, avec sa population qui a presque doublé en nombre et en qualité explosible. Supposez que Botany Bay, un séjour et un rendez-vous de convicts, comme vous savez, soit en même temps un endroit fameux pour l'industrie, pour les usines de toutes sortes, pour l'agglomération des ouvriers les plus nombreux et les plus variés. Supposez, en outre, que cette ville nouvelle soit un grand foyer politique, qu'elle ait une histoire toute récente et bien connue, une histoire de volcan pour les explosions populaires. Naturellement, cette Atlantide aura des journaux, des tribuns, de la clameur et de la colère à tout propos. Voilà, direz-vous, une cité qui court de véritables périls, où il fait bon ne pas vivre, surtout pour les gouvernements. Oui, sans doute. Mais si vous ajoutez que cette ville est la capitale d'un pays habité d'ailleurs sainement et fortement par une population 15 ou 20 fois plus nombreuse, qui paie l'impôt et qui fournit les hommes nécessaires à une bonne armée. Si vous ne perdez pas de vue que cette armée elle-même a une bonne tradition, que le pays et l'armée sont eux-mêmes une race éminemment gouvernable, vous conclurez de là seulement que Paris doit être entouré de forts et de camps, gardé par 100 000 hommes de troupes, et que ces troupes elles-mêmes doivent être gardées contre la contagion des sentiments populaires par l'isolement, le baraquement, etc. Que voulez-vous? Chaque société a ses conditions de vie qui tiennent à son passé. Le nôtre a fait parmi nous de la centralisation et par conséquent une capitale d'un prestige, d'un empire véritable. Vous pouvez bien croire que les périls comme les bienfaits vont s'y accumuler, que les plus grands ou les pires événements vont partir de là. À chaque jour sa peine. Vous ne pouvez détruire cette œuvre des siècles, mais vous pouvez la traiter par des expédients, par des précautions nouvelles comme les circonstances. On peut vivre avec cela. Il en est des sociétés comme des familles. Chacune a sa croix, son épine, son squelette hideux et menaçant dans quelque coin. La France ne mourra pas de son mal actuel, quoique ce mal ancien soit plus aigu que jamais. Elle y survivra parce qu'il est combattu par des forces nouvelles et supérieures d'aplomb social, de bien-être économique, d'expérience et de confiance imperturbable survenue à ce pays. L'expérience est celle des chutes, la confiance est celle des restaurations, des réparations et finalement d'un progrès soutenu qui ne s'est pas encore démenti. Il faut en finir. Toutefois, je n'ai pas assez dit combien on calomnie la France en la traitant de révolutionnaire, c'est-à-dire de malade et d'empoisonnée. Car telle est la portée du grief. Il n'y a pas de vilenie, pas de scélératesse qu'on ne fasse tenir sous le mot de révolution. On dirait une récréation dans le vol et dans le sang qui a le don de nous charmer, de nous attirer à d'incessantes récidives. Cependant, prenez-y garde. Si tels étaient les instincts du pays, ils n'y paraîtraient pas seulement à l'heure des révolutions. L'offense et la souillure en seraient partout. Nous aurions pour pain quotidien tous les attentats du code pénal. Et pour fin d'année, des statistiques criminelles à faire frémir. Quand on aime à tuer, à voler, à brûler, on n'attend pas pour cela l'occasion politique. On se donne carrière à tout propos. On se met à l'aise dans la vie courante et privée. On commet tous les crimes de droit commun. Un peuple dévoré de tels appétits, sujet à de telles énormités, serait le dernier des peuples, abruti et dépravé entre tous, la plus impuissante et la plus impossible des sociétés. Un séjour de maudits, montré du doigt parmi les nations, frappé d'isolement, perdu d'émigration. Est-ce donc là notre signalement? Je conclus de là que nos révolutions ne tiennent pas à notre caractère, qu'elles sont purement accidentelles et qu'il reste à trouver la cause de cet accident. La France n'ayant pas un goût des révolutions qui serait simplement le goût du crime, par où serait-elle révolutionnaire? Par amour du changement? Mais elle a gardé pendant 9 siècles environ la même forme de gouvernement dans la même famille. Par amour de cette indiscipline que les Anglais appellent principe volontaire et que nous appelons individualisme. Mais elle était prise et se laisse combler de centralisation, de réglementation, de tutelle publique. Par abus, par déviation de certaines qualités audacieuses et violentes. Mais la France n'ayant pas ces qualités, qui sont plutôt celles de l'Américain, ne saurait en avoir cette perversion. Songez donc que si la France aimait les révolutions, elle garderait plus longtemps l'état révolutionnaire. On ne verrait pas parmi nous une telle hâte à relever les gouvernements et à recommencer les périodes paisibles qui sont après tout, même depuis 89, notre manière d'être habituelle et normale. Pure exception et simple surface que nos révolutions. La vérité pratique et usuelle, le fond, et pour ainsi dire la permanence des choses parmi nous est ceci. Travail et épargne populaire. C'est tout ce qu'on peut demander au peuple d'esprit et de vertu. Savoir et habileté des classes supérieures, qui paraît dans toutes les œuvres d'esprit, dans les professions libérales, dans les services publics. Restent nos révolutions. Comme elles ne procèdent ni de tels vices particuliers, ni de telles qualités spéciales, encore moins d'une immoralité générale, il faut bien croire qu'elles sont imputables à nos gouvernements. Est-ce que ce pays aurait par hasard le privilège des gouvernements ineptes et enragés? Le fait est que cela lui est arrivé plus d'une fois. On a, me direz-vous, les gouvernements qu'on mérite. Rien n'est moins clair. On a les gouvernements qu'on peut. Les gouvernements sont tellement nécessaires. Les plus mauvais rendent de tels services. Ils ont d'ailleurs une telle force contre l'individu qu'on supporte les moindres ou même les pires gouvernements comme préférables à l'anarchie. On les prend sans les connaître. C'est le cas de l'hérédité. Quelquefois, on les élit sans les connaître davantage sur la foi de leur nom, de leur tradition. Une fois établis, on les supporte, eux et leurs fautes, parce qu'ils ont la possession, l'autorité de toutes sortes. Cependant, une nation surtout moderne, surtout la France, ne peut renoncer au droit de juger ses gouvernements et même de les exécuter, car tel gouvernement peut commettre des énormités impardonnables, tel autre, qui avait de l'esprit et de la vigueur à ses débuts, peut tomber en enfance. De là des révolutions, nécessaires et légitimes, quoi qu'il en coûte. On fait des réformes, me direz-vous. Oui, quand le vice est dans telle institution. Mais quand le vice est dans le gouvernement, et quand ce gouvernement est un homme. Mais enfin, le pays est-il donc sans faute et sans reproche dans le fait de ces révolutions? Je réponds que les travers de l'esprit français paraissent plutôt dans ses lois, garde nationale et suffrage universel, que dans ses révolutions. On insiste et l'on me demande si je n'aperçois rien de pernicieux et de menaçant, rien de révolutionnaire enfin dans la situation actuelle, notamment dans l'esprit qui a fait les dernières élections. Pardon, je vois le suffrage universel un pur excès de démocratie, un organe qui excelle à détruire. Si vous estimez vicieux et mauvais l'état social tel que nous le pratiquons, ne touchez à rien, livrez-le seulement au suffrage universel, qui en aura raison, tôt ou tard. Mais s'il vous semble que la minorité riche a eu le droit de naître et qu'elle a le droit de vivre, accordez-lui le droit de se défendre. Ne la livrez pas à la majorité qui est pauvre, qui est souveraine et qui fera des lois pour son bien exclusif, suivant l'exemple immémorial de tous les souverains. Il y a dans le suffrage universel le principe des vicissitudes et des entreprises malsaines. Cette institution est faite pour créer en nous le virus révolutionnaire qui n'est pas, quoi qu'on en dise, dans nos entrailles et dans notre passé. Elle porte et recèle une excitation qui tiendra les masses toujours debout et allumées, un appel au peuple permanent. En vain tenteriez-vous une politique d'apaisement par la voie des compromis et des transactions. L'excès est dans le suffrage universel. L'excès ne se laissera pas apaiser. Il est la force. Il croit être le droit. Il ne transigera pas. C'est l'expérience que vient de faire un grand homme d'État. Il a voulu apaiser. On sait le reste. Le découragement des batailleurs, le défaut d'armes, une certaine lassitude qui succède naturellement aux commotions peut produire une trêve. C'est ce qui nous est arrivé depuis 2 ans. La marche vigoureuse du gouvernement, une certaine direction émanée des pouvoirs publics, un certain choix de fonctionnaires auront peut-être le même effet temporaire. C'est ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Mais le salut est à d'autres conditions. La société ne sera sûre d'elle-même qu'ayant supprimé une chose nouvelle et mauvaise, comme la souveraineté du nombre, une chose vieillie et dissolvante, comme la monarchie, comme le césarisme, que l'Assemblée actuelle daigne le comprendre. Il lui appartient. Il n'appartient qu'à elle, monarchique comme elle l'est, de faire une bonne république, c'est-à-dire une république sans excès de démocratie.